du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est les cours qu'on retrouve avec le mois de janvier, le cours sur la liturgie, qui est, comme je le rappelle, plutôt un cours de théologie de la liturgie, plutôt que de technique de la liturgie, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même chose, disons, d'exposer les formes liturgiques ou de chercher le sens des choses. En fait, comme j'ai déjà dit, mais je vous rappeler, il y a deux heures, donc ça peut faire deux cours. Et le premier de ces cours, je le consacre pour le moment à faire connaître un peu le travail de Maxime Kovalevski, parce que je peux m'expliquer, disons, il s'agit en fait d'un très grand musicien, d'un très grand musicologue, d'un très grand liturgiste, d'une personnalité orthodoxe assez exceptionnelle. Et surtout, Maxime Kovalevski a comme caractéristique le fait d'avoir une certaine universalité, c'est-à-dire qu'il connaît à fond, mais connaissait à fond, bien entendu, la tradition orthodoxe elle-même, non seulement slave, dont il était issu, mais également les autres formes. Il connaissait très très bien aussi les formes occidentales qu'on peut donc considérer comme faisant partie de la tradition orthodoxe, puisque ces formes occidentales ont été développées avant le grand schisme, ont nourri des peuples entiers avant les évolutions très caractéristiques de l'Occident qui ne se manifestent pas avant le Moyen-Âge quand même. Donc Maxime Kovalevski connaissait très très bien tout cela, et en plus, en lisant les textes que nous avons de lui, il avait une connaissance, un esprit très ouvert, on va dire, à l'égard de ce qui se passait dans les différentes confessions chrétiennes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la liturgie, surtout de l'Église orthodoxe, et en langue française et en langue russe, en langue slave, dans le slavon, mais il a travaillé à une époque qui était en Occident marquée par le concile de Vatican II et les préoccupations liturgiques qui se rencontrent dans les confessions chrétiennes comme l'Église catholique romaine ou le monde réformé. Donc il était conscient qu'en fait qu'une réflexion, ça c'est assez important ça, qu'une réflexion sur la liturgie et sur le champ liturgique en particulier doit être d'une certaine façon une réflexion œcuménique, c'est-à-dire une réflexion qui trouve sa place dans la démarche générale des chrétiens qui à une époque donnée, d'une manière simultanée, se pose à peu près les mêmes questions. Alors, je tiens à dire ici que quand on parle, quand nous les orthodoxes, nous parlons d'œcuménisme, ça n'inclut pas une idée de relativisme, qu'on se dirait que l'orthodoxie serait simplement un rameau parmi les autres, etc. Nous sommes bien conscients que l'Église orthodoxe est l'Église mère et l'Église traditionnelle qui porte en fait, tout le patrimoine apostolique et patristique, on ne revient pas là-dessus. Mais nous sommes, je pense, assez informés pour nous rendre compte que les chrétiens des communautés, on va dire, non orthodoxes, on va pour les appeler comme ça, les différentes dénominations, sont des communautés très actives, des communautés qui réfléchissent, des communautés en mouvement, et que nous, notre rôle d'orthodoxe est de nous intéresser à ce qui se passe chez les autres. La position de l'orthodoxie n'est pas une position sectaire, une position frileuse. Nous n'avons pas peur du dialogue, nous n'avons pas peur de la rencontre avec les différents chrétiens. Nous sommes les orthodoxes bien dans notre peau, disons. Et en plus, le fait d'appartenir à l'Église orthodoxe nous donne une position privilégiée pour comprendre les démarches liturgiques des différentes communautés. Je pense que nous sommes les mieux placés, en fait, en tant qu'orthodoxes, justement, pour analyser ce qui se passe dans l'Église catholique et dans l'Église protestante, pour nous limiter à ces deux formations chrétiennes. Hein. Donc, que ce soit bien clair pour nos étudiants et nos auditeurs que Maxime Kovalevski, n'était pas du tout un homme relativiste, c'est un homme intelligent, un homme très au courant, et un homme qui était au service de la conscience chrétienne universelle. Il a beaucoup voulu aider les chrétiens des différentes communautés ont beaucoup voulu les aider à réfléchir sur la liturgie, à progresser dans le sens de la liturgie. En même temps, il était bien conscient, si vous voulez, je pense que cette conscience œcuménique qui était la sienne et qui est assez caractéristique, elle était capable de, comment dire, de... Peut-être ça ne va pas plaire aux orthodoxes ce que je vais dire là, mais il était capable, si vous voulez, de dire qu'il y a quand même dans la pratique, qu'il y avait et qu'il y a dans la pratique liturgique de l'Église orthodoxe actuelle, aussi bien au point de vue du chant que du point de vue même des rites, de la participation des fidèles à la liturgie, des éléments traditionnels qui pourraient être retrouvés, que l'Église orthodoxe telle qu'elle se présente actuellement dans les différentes églises locales n'est pas la forme achevée, n'est pas toujours la forme traditionnelle non plus dans sa liturgie en particulier. Donc il y a eu des phénomènes de décadence et des phénomènes d'appauvrissement et qu'il faut avoir le courage d'indiquer sans aucune polémique, sans aucune critique négative et pareillement ce qui se passe dans le domaine liturgique chez les catholiques ou chez les protestants, mais si vous voulez, gagne aussi à être observé avec un regard critique constructif. Si par exemple, nous, orthodoxes, nous pensons que ce qui est sorti du Concile Vatican II dans le domaine liturgique n'est pas exactement ce que nous espérions. Voilà, donc nous pouvons être critiques à l'égard de nous-mêmes, je pense que ça ne nous fait pas peur, et nous pouvons être critiques à l'égard de ce qui se fait dans les autres églises, en pensant que ça pourrait être autrement, qu'on pourrait faire mieux. Oui, mais le fait de se dire qu'il y a des choses à améliorer, c'est pas négatif, vous voyez, c'est au contraire une attitude, je sais pas, c'est une attitude constructive. En tout cas, chez Maxime Kowalewski, c'est très clair. Alors, ici, au point de vue de la bibliographie, c'est vrai qu'il n'est pas facile de trouver des textes de ce grand liturgiste. Moi, j'utilise ce livre qui s'appelle « Retrouver la source oubliée », que j'ai déjà cité, dont j'ai donné les références que vous trouverez sur le site. Mais également, il y a beaucoup de textes de lui dans une encyclopédie, je vais peut-être le signaler, l'encyclopédie, je vais retrouver ça. Ah, j'aurais dû le marquer, pardon. L'encyclopédie du chant. Ah bon, je le retrouverai, pardon. Maxime Kowalewski avait rédigé, voilà, un volume qui s'appelle La tradition byzantine. Vous pouvez le noter, c'est intéressant quand même. C'est en français. Hein. Tradition byzantine, encyclopédie des musiques sacrées. Et dans le volume 3, édition La Bergerie MAM, Paris 1971, il y a des articles de Maxime Kowalewski sur le chant liturgique, par exemple. Donc, vous voyez, c'est intéressant, il faut essayer de retrouver un peu les textes. Alors, ce soir, je propose dans ce premier cours qui est consacré, comme l'ajoute Vignaz Venit, dans le cours qui lui est consacré, je propose de considérer ce qu'il dit des différentes fonctions liturgique, c'est-à-dire revenir un petit peu sur le rôle des fidèles dans la liturgie orthodoxe et par ailleurs aborder ce qu'il dit sur le rôle dans le domaine purement musical à ce moment-là des différents ministère, si on peut dire. Voilà, donc là, ce qu'il appelle la place de la musique dans la liturgie selon les règles ecclésiastiques. Parce qu'en fait, ce qui se trouve, c'est que je crois que le premier principe qui est mis en avant par le professeur Kowalewski, le premier principe qui est mis en avant, c'est que la musique dans le culte chrétien n'est pas une option. Elle n'est pas optionnelle et elle n'est pas non plus une réalité qui serait de caractère arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne chante pas n'importe quoi ni n'importe comment. Bon, j'essaie de lui dire ça gentiment. Bon, ensuite, la musique, la liturgie n'est pas, ne devrait pas être une importation dans le contexte liturgique d'une réalité musicale existant ailleurs. Par exemple, on ne devrait pas importer un style musical du monde, par exemple certaines formes de polyphonie italienne que l'on voit dans la musique, musique russe et assez souvent aussi dans le chant liturgique de l'église roumaine, dans certaines églises roumaines, et une sorte une importation de formes musicales qui sont très belles en elles-mêmes, hein, qui sont des formes, par exemple, des formes de polyphonie très complexes et très, vraiment très très belles, mais qui ne sont pas de caractère liturgique, qui sont même souvent en contradiction avec l'esprit liturgique, par exemple, pour le fait que ces formes musicales nuisent à la compréhension de la parole. Donc l'introduction de... je ne sais pas si je m'exprime bien, il faut considérer comme une erreur, si vous voulez, d'introduire dans le contexte liturgique une réalité musicale qui n'est pas de caractère liturgique, qui est du caractère qui appartient à la culture, qui appartient à l'agrément d'une société instruite, à des élaborations qui ont été faites en dehors de la tradition liturgique. Mais donc, voilà, importer ça dans la liturgie est finalement nuisible, parce que ça va principalement empêcher la transmission de la parole. Je considérais que la place de la musique dans la liturgie est essentiellement et exclusivement au service de la parole. C'est qu'il n'y a absolument rien dans la musique liturgique qui devrait être, par exemple, au service de la distraction, au service de, servir à reposer les personnes d'un trop grand effort spirituel, ou favoriser la rêverie, encourager une certaine sentimentalité, tout ce qui est dans la musique vient détourner l'homme de son activité liturgique principale, doit être considéré comme néfaste. Il en est de même, par exemple, pour les instruments. Hein, l'introduction d'instruments de musique dans le culte est quelque chose du point de vue orthodoxe, en tout cas, c'est ce qu'a expliqué en tout cas le professeur Kowalewski, quelque chose qui nuit à la réalité liturgique elle-même, pour deux raisons. C'est que d'une part, les instruments très vite entrent en compétition avec les voix, et une compétition qu'on peut considérer comme déloyale, puisque l'instrument est souvent beaucoup plus puissant que la voix, il est beaucoup plus efficace, et finit par couvrir la voix. Et la deuxième raison, c'est que l'instrument de musique propose une réalité musicale en elle-même. C'est-à-dire, par exemple, c'est le cas de l'orgue, c'est le cas de la guitare, ou la flûte. On finit par écouter, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, on finit par écouter la musique pour elle-même, et sans qu'elle soit forcément coordonnée à la parole. Là, ce sont presque des banalités de dire cela, mais il faut quand même avoir le courage de dire les choses. Par exemple, quand on nous pose quelquefois la question « Pourquoi nous n'avons pas d'instrument de musique dans le culte orthodoxe ?» Il y a des raisons. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a quand même des instruments de musique, par exemple, il y a les cloches, il y a la cimandre, il y a certains, dans certains cultes orthodoxes traditionnels, comme je crois chez les Éthiopiens, chez les Érythréens, il y a l'usage de ce qu'on appelle des sistres, il y a des petites clochettes, il y a également les clochettes qui sont sur les encensoirs, qu'on n'est pas obligé de faire sonner si fort, mais quand même qu'on entend. Donc il y a quand même des éléments instrumentaux, mais minuscules, et qui en tout cas ne sont pas de nature à couvrir la voix ou à imposer quoi que ce soit. Enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas. enfin, moi personnellement, je suis plutôt pour qu'on conserve ces petites choses-là, mais l'instrument de musique, hein, ou les formes musicales hétérogènes, sinon liturgiques, imposent aussi une harmonie. Par exemple, ça fait entrer dans la musique liturgique l'harmonisation classique, suivant la gamme tempérée, suivant les modes mineurs, les modes majeurs. Et ça, ce sont l'introduction dans la musique liturgique des modes mineurs et majeurs, c'est quelque chose qui dénature la musique liturgique. Bon, ça, là, on a l'air d'être très négatif. Mais quand le professeur Kowalewski a dit ces choses-là, c'était parce que simultanément, il proposait qu'on retrouve le style liturgique traditionnel. Et qu'est-ce que c'est que le style liturgique traditionnel ? Mais c'est celui que nous trouvons, par exemple, dans le chant byzantin basique, qui est comme un exemple assez exceptionnel, ou dans le chant vieux slave, le chant qu'on appelle Znameni, si je ne me trompe pas sur l'expression, ou également le chant bénédictin, le chant grégorien, tel qu'il a pu être conservé, quand même, sous une forme ou sous une autre. Donc, le professeur Kowalewski pensait qu'il y avait quand même des formes musicales proprement liturgiques, faites pour ça, consacrées à la liturgie, et que ce sont ces formes musicales-là qu'il faut utiliser pour retrouver si on les a perdues. Moi, j'adhère beaucoup à ce point de vue, non pas par servilité, si vous voulez, mais moi j'ai bien vu, moi j'ai quand même fait une partie de mes études en Roumanie, et j'ai très bien vu comment à Bucarest on a les deux styles de chant. Certaines églises sont envahies par un chant polyphonique italianisant. C'est très très beau, mais on ne comprend absolument rien, pas un mot de ce qui est chanté, parce qu'il y a quatre voix, cinq voix, six voix quelquefois. Donc le texte est complètement avalé par la musique. C'est terminé. Et puis dans la même église, c'est intéressant, dans la même église, il va y avoir un chœur qui est capable de psalmodier en chant byzantin. Alors par exemple, pour la fille de Matine, on va demander au chantre byzantin de psalmodier les textes, et puis à partir de la liturgie, alors ça c'est le chœur professionnel qui arrive, pays généralement rétribué, bon, et qui s'installe souvent, sur une espèce de tribune, voilà, une tribune, et donc à ce moment-là, donc, il donne un concert musical tout à fait magnifique, tout à fait remarquable, mais c'est un peu la fin de la liturgie. Je suis obligé de prévenir les étudiants et les auditeurs que j'ai quelques positions comme ça qui peuvent paraître négatives, mais que je crois constructives. Je considère, à la suite du professeur Kowalewski et d'autres personnes, d'ailleurs, que le fait que, par exemple, le chœur polyphonique, déjà, soit placé sur une tribune, deuxièmement, ça veut dire que, tout d'un coup, il n'y a plus de possibilité de participation liturgique du peuple. Et terminé, et j'en ai fait l'expérience moi-même, j'ai remplacé un prêtre cette année dans une de nos paroisses du Doyenné de France, donc j'étais à l'hôtel, les chantres, donc à un certain moment, des chantres de très bonne qualité d'ailleurs, se sont placés à la tribune, et du coup la liturgie s'est déroulée dans un dialogue, à peu près un genre de dialogue, disons, entre les chantres de la tribune et le prêtre que j'étais à l'hôtel, mais en passant par-dessus le peuple, en zappant complètement, si je peux dire, toute participation du peuple. Alors ça, si vous voulez, cette façon de faire qui peut être gratifiante du point de vue esthétique, elle doit être quand même désignée comme non liturgique, comme en contradiction avec l'esprit liturgique. Pourquoi ? Eh bien, sur ce plan-là, il faut rappeler que la liturgie, c'est l'œuvre de tous, c'est l'œuvre du peuple. Ergon, tout là-haut, tout theum. C'est-à-dire l'œuvre du peuple de Dieu. Et non pas une activité dans laquelle des spécialistes musicaux interviennent et où le peuple, donc, est réduit au silence complet, y compris dans les parties qui lui reviennent. Là où il doit répondre, là où il doit répondre. Donc là, on peut y revenir si vous voulez, on l'a déjà beaucoup dit, mais la fonction principale du peuple, c'est ce qu'on appelle les fidèles du peuple dans la liturgie, ce sont les réponses. Amen, avec ton esprit, devant toi Seigneur, il y a une série de réponses comme ça qu'on peut retrouver dans la liturgie selon Saint Jean Chrysostome et dans n'importe quelle liturgie chrétienne traditionnelle. Et ces réponses doivent être assumées par le peuple parce que le peuple est considéré comme concélébrant et non pas comme assistant ou spectateur ou auditeur d'un concert. Je veux dire que dans une église que j'aime beaucoup, une église roumaine que j'aime beaucoup, je ne peux pas nommer, ne pas être désagréable, des chantres que j'aime beaucoup aussi, la critique n'empêche pas l'affection, comme vous savez très bien. Et j'entends encore cette jeune fille qui est très très gentille m'expliquer que d'après elle, d'après ce qu'on lui a dit, le rôle du cœur est de répondre en fait à la place des fidèles. À la place des fidèles, de se substituer. Alors après ça, c'est vrai que si on part sur ces notions-là, qui sont erronées quand même, on ne peut plus du tout s'étonner si les fidèles arrivent à 11h15, 11h30 pour mettre leur cierge, puisqu'au fond, on ne les attend pas, on n'a pas besoin d'eux. On ne leur demande rien du tout. La liturgie a commencé avec les chantres et le prêtre, et puis, bon, tout va bien en quelque sorte. Mais on se rend pas, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de pratiquer quelque chose qui est en fait une décadence de la liturgie, qui est une déviation assez importante et qui, à terme, fait que les fidèles quittent l'Église, se détachent de l'Église, parce qu'au fond, ça n'a pas d'intérêt particulier pour eux. Si en plus, dans la même célébration, toutes les prières sont dites à voix basse, parce que le chœur, les chantres, monopolisent le son. Moi, j'ai entendu quand même, c'est dans une église russe, une fois, une personne qui était là, qui me disait, mais ouais, les chants dans cette église sont magnifiques, mais pourquoi est-ce que les prêtres parlent tout le temps comme ça? On est venu écouter les chants. Qu'est-ce qu'ils disent, les prêtres, là-bas, dans l'hôtel? En fait, les prêtres disaient quelques malheureuses prières, quelques bouts, quelques exphonèses, de temps en temps, timidement, mais dans la conception qui prévalait dans cette église russe, ce n'est pas une église roumaine, je vous rassure tout de suite, dans la conception qui prévalait, on était venu pour entendre de la belle musique, on n'était pas venu pour entendre les prêtres dire des prières. Et donc les prières devaient être dites tout bas, silencieusement, là-bas derrière l'iconostase, mais nous, on est ici pour entendre des beaux chants. Bon, je signale ça pour dire qu'il faut quand même, quand on est des orthodoxes, il faut être assez intelligent, assez sage pour balayer devant sa porte et dire, chez nous, il y a des choses qu'on peut comprendre différemment, on peut retrouver quand même la liturgie sous sa forme traditionnelle, et c'était ça le travail du professeur Maxime Kowalewski. Alors c'est vrai que pour cette raison-là, il a, comme le père Alexandre Schmemann, et comme tous ceux qui au XXe siècle ont essayé de travailler sur la liturgie traditionnelle, bon, il a été évidemment l'objet de certaines critiques, disons. Moi, je connais des personnes qui vous diront les œuvres de Père Schmemann ont été brûlées publiquement en Russie. Bon. Et Maxime Kowalewski, je l'ai entendu critiquer, on m'a dit c'est un hérétique, etc. Mais en réalité, ces personnes-là, que ce soit le Père Alexandre Schmemann ou que ce soit le professeur Kowalewski, sont des personnes qui ont consacré leur vie à essayer de retrouver le sens profond et réel et traditionnel de la liturgie. Voilà. Donc, pour ça, pour dire que aujourd'hui, où je t'ai parlé plus de la musique liturgique, il faut situer la musique dans le culte. Et donc, ça veut dire aussi, quand j'ai commencé par dire que la musique n'était pas dans le culte une option, ça veut dire que, par exemple, dans le culte, les parties parlées, c'est-à-dire non chantées, non psalmodiées, non cantilées, sont rarissimes. Le professeur Kowalewski a beaucoup expliqué ça. Il a employé l'expression, soit on peut dire chanter en français, hein. On peut dire chanter, on peut dire psalmodier, on peut dire cantiler aussi. Il a beaucoup employé cette expression-là, cantiler, on parle de cantilène aussi, c'est-à-dire une forme chantée, pas forcément très élaborée, mais qui est au service de la parole. Et par conséquent, je dis ça pour moi-même, ce qui m'est arrivé, je confesse ça devant Dieu et devant vous ici présents, il m'est arrivé, à tort, de lire un texte de façon parlée. Mais j'ai eu tort, ça m'est arrivé, ça a dû m'arriver, ça peut arriver, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que la musique, dans le culte, je suis un peu grippé, un peu à faune, la musique dans le culte, elle a une fonction, comme j'ai dit à l'instant, non pas décorative, elle n'a pas une fonction esthétique, elle n'a pas une fonction de distraction, comme j'ai déjà dit, mais elle a une fonction pédagogique. La musique porte la parole, véhicule la parole, sert la parole, amplifie la parole, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Elle accentue la parole, et d'ailleurs, la plupart du temps, elle est élaborée à partir des accents même de la langue. Et c'est pour ça qu'il est très difficile, par exemple, d'utiliser les mélodies byzantines avec la langue française, parce que les accents ne sont pas du tout les mêmes. Donc on va avoir une compétition entre les accents de la mélodie et les accents de la langue qui ne sont pas les mêmes. La musique byzantine, c'est élaboré à partir des accents de la langue grecque. Et après ça, quand elle a été utilisée par la culture roumaine, elle a été adaptée aussi. Il y a une forme byzantine, il y a une forme roumaine de du chant byzantin. C'est très, très particulier. On pourrait appeler ça le chant roumain byzantin qui, justement, tient compte des accents propres à la langue roumaine. Donc il doit y avoir, il peut y avoir, et il y a d'ailleurs une forme française, francophone du chant byzantin qui tient compte, enfin qui essaie de tenir compte à peu près des accents de la langue française qui ne sont pas du tout les mêmes. Parce que tout le monde sait que les accents de la langue française sont en fin de mots et non pas en début ou en avant, sauf dans le midi. Donc ça, c'est un exemple extrêmement important. Alors, ça veut dire qu'effectivement, on va choisir des types musicaux. Mais avant d'en arriver à ce qui est proprement peut-être l'aspect musical du sujet, je pense qu'il faut revenir sur des notions que j'ai déjà exposées dans le cours de propédeutique, mais sur lesquelles il faut revenir, c'est sur ce qui est la structure. Parce que si on parle de chant liturgique, et c'est pour ça que j'ai commencé par cela, on admet que dans une exécution musicale, il y a des exécutants différents. Par exemple, dans un trio, il y a un violon, il y a un alto, et il y a un violoncelle. Dans un quatuor, il y a un piano, etc. Donc, on admet que dans la musique, quand même, il y a plusieurs intervenants. Et même si c'est du chant vocal, une personne va chanter alto, une personne va chanter... il y a plusieurs... Alors, cette idée-là se retrouve dans la liturgie au sens où on s'aperçoit que le culte chrétien a toujours été conçu comme au moins tripartite, c'est-à-dire comportant des intervenants différents. Et les trois parties fondamentales sont ceux qui sont à l'autel, c'est-à-dire le prêtre ou l'évêque, qui disent des paroles qui correspondent à leur ministère précis, qui est le ministère de la présidence. Ensuite, il y a les paroles qui sont prononcées quand il est chanté, etc., par les chantres, le chantre, anciennement c'était un chantre, le préchantre, comme on l'a dit, le protopsalte, comme on dit aussi, ça reste beaucoup dans l'église grecque, le chant, c'est un singulier souvent, et troisièmement, la partie qui est obligatoirement cantilée par le peuple, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, les réponses, et non seulement les réponses, mais certaines hymnes. Par exemple, si le credo, le symbole de la foi doit être chanté, il doit être chanté par tous. L'hymne Fils unique et Verbe de Dieu, qui se trouve dans la liturgie également, doit être chanté par tous. Pourquoi ? Il y a une raison. Parce que ces textes-là expriment la foi de l'Église. Ils ont un caractère dogmatique. Or, ce n'est pas Maxime Kralevski qui l'explique, ça. C'est le professeur Constantin Andronikov. Constantin Andronikov insiste beaucoup sur le fait que la liturgie a pour fonction principale d'exprimer le dogme de l'Église, d'exprimer la foi de l'Église. La liturgie est un grand credo. Et donc, ça veut dire que toutes les parties qui sont vraiment de caractère dogmatique, doivent être chantés par tous. Le Notre Père, par exemple, doit être chanté par tous. Et non pas pour faire plaisir aux gens, c'est bon pour l'avoir, non pas pour faire plaisir aux gens, mais parce que c'est leur responsabilité. Tout fidèle confesse la foi. Nous avons baptisé des personnes encore dimanche dernier. Bah, par quoi est-ce que commence un baptême? Avant même le baptême, la personne dit « je crois » en un seul lieu. Mais dans l'usage romain, elle le dit même trois fois. Bon. Est-ce qu'il veut dire que les fidèles sont dans l'église pour ça, pour confesser la foi? Voilà, c'est un exemple assez rapide. Là maintenant, il y a d'autres ministères, par exemple le ministère du diacre, qui est un ministère très très important, et qui en fait, lui, assure la liaison, c'est comme une courroie dans un moteur bien, bien organisé, il assure la liaison entre l'autel, entre ces trois parties-là, c'est très intéressant. Le diacre n'est pas dans la liturgie pour faire des solos tout à fait extraordinaires, façon opéra, encore que ça se trouve dans certaines cathédrales. Bon, on trouve de tout, hein. Mais ça, c'est une déviation, ça. En réalité, le diacre n'a pas une fonction. Le diacre a une fonction. Le diacre a une fonction très précise. Donc c'est, il assure la liaison entre l'autel, les chantres et le peuple. Ou directement entre l'autel et le peuple. Ou, quelquefois, dans certains cas, entre le peuple et le cœur. Par exemple, la liaison entre le peuple et le cœur, c'est dans l'exemple typique, c'est l'exemple du répond long, du répond qu'on a à la fin des matines. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu de Dumnezeu et c'est Domnul, c'est quand on chante ça tout le temps. Ça, c'est le diacre. Le diacre dit ça recto tono, et le cœur reprend les harmoniser. Bon. Et éventuellement, le peuple peut reprendre aussi, quand on a bien entendu. Mais ça, c'est un cas typique où le diacre fait la liaison avec le cœur. Mais dans d'autres cas, il fait la liaison entre le prêtre et le peuple. Quand il dit « soyons attentifs, c'est l'omaminité ». Pourquoi? Parce que le prêtre va dire « pacez tout l'ordre ». Donc, et le peuple va répondre « amen ». Donc, le diacre joue son rôle à ce moment-là de liaison entre ces deux postes. Enfin, bon, donc, le ministère diaconal, pour cette raison, est un ministère nécessaire. Et la disparition, c'est vrai que la disparition pratiquement du ministère diaconal dans beaucoup d'églises a beaucoup appauvri la célébration liturgique et a entraîné justement une sorte de totalitarisme, si je peux dire, de monopole des chantres ou quelquefois un monopole des prêtres. Il est à regretter. Dans les formes de décadence, de déviation liturgique, une des déviations liturgiques, c'est le fait que le prêtre dise tout. Non. Le prêtre doit dire ce qui est dans son rôle. Là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des diacres. Le prêtre reste à sa place. Le diacre fait ce qui est à lui. Mais moi, j'ai été dans une paroisse, comme je suis doyen des paroisses de Guinée-Rouma de France, donc je circule pas mal. Et je vois des endroits, par exemple, où le prêtre à l'hôtel chante tout. Il chante en même temps que le cœur. Parce qu'il pense que le cœur chante pas bien, donc il faut qu'il ait le cœur. Bon, ah, finalement, le prêtre devient un espèce de super chantre. Quelquefois, il chante très bien, d'ailleurs. Faut reconnaître. Mais c'est une erreur liturgiquement. Ce n'est pas sa place, ce n'est pas son rôle. Il doit faire ce qui est à lui, le prêtre, et laisser les chants faire ce qui est à eux, et laisser le peuple. Il doit pas, le prêtre ne doit pas répondre amen. C'est au peuple à répondre amen, par exemple. Ah bon, tout ça pour dire qu'il y a une organisation, et que Maxime Kowalewski dit que pour trouver la source de ça, il faut lier la hiérarchie céleste et la hiérarchie ecclésiastique de Denis l'Aréopagite. Que c'est dans les écrits aréopagites que cette conception très organisée du culte, cette mystagogie du culte, s'est expliquée le mieux. Alors, je vous lis quelques passages qui sont vraiment intéressants. J'ai déjà parlé de ces choses-là, mais j'y reviens. Parce que je me rends compte que, pastoralement parlant, dans la plupart de nos paroisses, la situation n'a pas beaucoup changé. On a toujours un petit peu une espèce de timidité des fidèles qui sont censés ne pas faire de bruit pour laisser les chantres chanter, ou bien à l'inverse, des fidèles à qui on a dit qu'ils doivent chanter et qui chantent tout. Alors, ce qui n'est pas juste non plus. Parce que explique très bien Maxime, le professeur Kowalewski, c'est qu'en fait, il y a une alternance dans la liturgie, une alternance dans le moment où dit quelque chose ou on chante quelque chose, et à un moment on écoute, et qu'il faut qu'il y ait cette alternance entre l'écoute et le chant. C'est ce qu'on appelle la structure responsoriale du culte. Donc si les fidèles chantent tout le temps, ils n'écoutent plus. Et si les chantres chantent tout le temps, ils n'écoutent plus. Et si le prêtre chante tout, il ne va pas écouter non plus. Et le prêtre aussi doit écouter, figurez-vous. Hein, c'est très important, le prêtre doit écouter. Il y a des moments importants où le prêtre ne dit rien. Il est à l'autel, ne dit rien, et il écoute la prière des fidèles, et il la porte dans son cœur, et il la présente à Dieu. Silencieusement, il est là pour justement présenter à Dieu la prière du peuple. Donc il ne dit rien. Il ne dit rien, il écoute, il porte simplement cette prière-là. Il est le canal de cette prière-là, sans même la prononcer. Il y a d'autres moments où il vous dit ce qu'il a à dire, ce n'est pas un problème. Mais, donc cette idée que chacun dans la liturgie a son rôle, là c'est une idée qui est vraiment très intéressante. Et si on peut... Donc le professeur Kowalewski a pensé que si on met ça en valeur, on va aussi retrouver dans la vie paroissiale, dans le culte, quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus participant, parce que ce serait un bien. Donc c'est parce que il dit ça par exemple à cette action commune, que la liturgie est une action commune, quelle la liturgie, le fidèle n'est pas appelé à assister en spectateur muet dont l'intention reste pudiquement cachée, il est invité au contraire à y œuvrer activement en plénitude de tout son être. Et il dit une chose qui est très intéressante, c'est que dans la liturgie, le véritable auditeur ou spectateur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas les chants, ce n'est pas le peuple, c'est Dieu. Et ça, c'est très très beau. Ça se voit par la relation entre la liturgie et l'architecture, et particulièrement le programme iconographique de l'Église. Bon, ça dépend un peu des églises. Dans une église romano-byzantine, on a tout de même assez souvent une coupole quelque part, même une petite coupole. Et dans cette petite coupole, il y a un Christ en majesté, hein, comme on l'appelle, le pantocrator. Et le pantocrator est au-dessus, comme ça, et il regarde. Mais non seulement il regarde, mais il écoute. Donc ça, c'est très très important. La structure de l'architecture de l'Église chrétienne donne à Dieu cette place-là d'être le spectateur, en quelque sorte, à qui on présente un office avec de l'encens, des couleurs, des beaux gestes, etc. Mais il est aussi l'auditeur, il est celui qui écoute son peuple. Et ça, bon, en même temps, Dieu est celui qui parle, puisque toutes les paroles qui sont distribuées dans la liturgie sont les paroles de Dieu. Donc on peut dire que dans la liturgie, c'est un aspect très intéressant que peut-être Maxime ne développe pas suffisamment d'ailleurs, mais l'aspect très intéressant, c'est que dans la liturgie, Dieu est à la fois celui qui parle et celui qui écoute. Il est à la fois celui qui est regardé et celui qui regarde. Il est beaucoup celui qui regarde. Et ça se voit aussi dans l'icône par le fait que les iconographes ont appris à réaliser les yeux du Christ d'une manière très très grande. Ils sont d'une taille, je ne sais pas sur l'icône-là, souvent, dans les églises, ils sont d'une taille souvent même excessive, des yeux immenses, parce que Dieu regarde. Dieu regarde et voit ce qu'on peut, Dieu voit tout. Et c'est tout de nous, et nous sommes sous le regard de Dieu. C'est être chrétien, c'est ça, c'est agir sous le regard de Dieu. Donc voilà. Mais on dit dans un autre moment de la liturgie que Dieu est celui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué. Donc il y a la place de Dieu dans le culte, qui est une place très particulière, qui est une place assez variée. Le culte, c'est pas uniquement quelque chose d'humain, mais c'est quelque chose de divino-humain. Donc dans l'exercice du culte, dans la liturgie, Dieu a sa place quand même. Bon, il est quand même le premier célébrant. Il est le pontife par excellence, le prêtre par excellence, le seul prêtre véritable. Et donc il est celui qui est à la tête de la célébration. Et nous concélébrons avec lui, nous célébrons avec lui en tant que nous sommes ses membres. Mais pour ne pas dire que nous célébrons, là nous célébrons avec lui, impreuna solitori, à lui Christos. Et ça c'est très intéressant ça. Et donc, en fait, ça explique aussi l'organisation de la liturgie. C'est que la liturgie doit être très humble, parce que c'est Dieu qui célèbre, c'est Dieu qui est l'officiant principal, c'est Dieu qui est le serviteur principal, c'est Dieu qui parle principalement, c'est Dieu qui offre principalement, c'est Dieu qui est offert principalement. Et nous, qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque, qu'on soit diacre, fidèle, on est les serviteurs de cette célébration du Christ, en fait, c'est la... Et encore, je ne parle que de la place du Christ, mais vraiment la place du Saint-Esprit qui est extrêmement importante dans le culte. C'est vrai que si on commence à laisser s'introduire l'esprit du monde dans la liturgie, par exemple par des chants polyphoniques, des espèces de concerts liturgiques, il n'y a plus beaucoup de place pour le Saint-Esprit non plus. Puisqu'on remplace la perception spirituelle, hein, de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, on la remplace par une jouissance d'ordre esthétique. Et c'est un peu comme dans le domaine de l'icône. Faites très attention, si on introduit dans l'icône des éléments sentimentaux, affectifs, psychiques, eh bien on perd la capacité de percevoir la grâce du Saint-Esprit. Faire très attention, ce n'est pas la même chose. Une émotion psychique n'est pas la même chose que la conscience palpable de la grâce du Saint-Esprit. Donc il y a aussi ça. Alors je développe un peu, parce que le professeur Kowalewski n'a pas eu le temps de développer ces aspects-là, mais il faut bien savoir que l'enjeu véritable du culte, c'est la participation au Saint-Esprit. Et si notre culte est bourré de musique genre concertante, ou bien si notre culte est encombré par des paroles humaines, par exemple dans certaines formes de culte chrétien, celui qui préside parle tout le temps, commande tout, mais il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit non plus. Et s'il y a trop de... J'ai vu une fois, c'était intéressant, un de nos prêtres, il croyait bien faire, il faisait de la catéchèse dans la liturgie tout le temps. Alors, c'était bien, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. La liturgie n'est pas le moment pour expliquer ce qu'on fait. La liturgie est une action. Alors, on explique avant, on explique après, on fait la catéchèse avant ou après, mais pas pendant. Parce que si tu fais l'explication, tu introduis un raisonnement humain, même de bonne qualité, mais tu l'introduis dans un espace qui est fait pour la perception de la grâce du Saint-Esprit. Et même l'Évangile, par exemple, le commentaire de l'Évangile est un commentaire qui est absolument obligatoire, l'homélie est obligatoire, canoniquement obligatoire. Hein, c'est les prêtres qui ne prêchent pas en tort, doivent être sanctionnés sévèrement. Bon. Et l'homélie est un commentaire de la parole, mais un commentaire suivant la tradition. Il ne doit pas être une explication humaine, il ne doit pas être une explication philosophique, on ne doit pas introduire d'éléments psychologiques là-dedans. L'homélie doit avoir un caractère liturgique elle-même, inspiré. Bon, ça, on peut en parler également. Donc, tout ça pour dire que la liturgie, c'est une expérience divino-humaine. C'est pas quelque chose de purement humain, avec des éléments culturels intéressants, mais qui encombrent quelquefois trop. Voyez. Alors, en particulier, c'est vrai que la présence de chants, on a des chants qui sont... Moi, je prends comme mes exemples dans ce que j'entends. Un endroit dans une paroisse où je vais, la femme du prêtre est une musicienne, et elle est musicienne professionnelle. Donc, alors, du coup, on lui a dit « Ah, ben, c'est toi qui dois chanter ». Erreur. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et donc, ça, heureusement, cette personne est très intelligente. Donc, ça a duré une fois, deux fois, trois fois. Et quelqu'un lui a parlé gentiment. Elle a compris. Elle a compris qu'en fait, il fallait qu'elle change complètement son style. La musique liturgique, ce n'est pas ce qu'elle a l'habitude, elle, de faire au concert ou à l'opéra. Oui. Mais il y a d'autres endroits où, malheureusement, les personnes ne comprennent pas, ou au contraire, on les encourage, et tout le monde écoute. Moi, j'ai entendu ça dans une église. On a pratiquement arrêté la liturgie à un moment pour écouter une cantatrice roumaine extraordinaire qui venait faire sa prestation dans la liturgie. Bon, alors c'est très bien, mais ce n'est plus la liturgie. C'est autre chose. Quoi. Bon, donc oui, il y a des éléments très, très intéressants aussi. Et donc, oui, je disais ça parce que j'ai développé cette idée que de Maxime sur la place de Dieu dans la liturgie. Dieu comme auditeur, Dieu comme spectateur. C'est très, très, très intéressant. Bon, donc les trois postes. Alors, pour revenir un petit peu là-dessus, Maxime développe un petit peu cette tripartition. Hein. Je vous ai parlé déjà, le chant du clergé, le chant au pupitre et le chant dans la nef. Hein, puisqu'en fait, ça va avec l'architecture aussi. Nos églises, même quand on utilise maintenant dans nos paroisses, vous savez comment ça se passe dans nos paroisses, quelquefois on loue un espace où on se fait prêter une église par quelqu'un, quelquefois ça ressemble à rien, vous voyez. Donc il faut arriver à organiser l'espace pour qu'il soit un espace liturgique. Alors le minimum, c'est de mettre les contes du Christ de la Mère de Dieu pour articuler la nef et le sanctuaire, si ça n'existe pas. Même dans certaines églises, ils mettent des icônes au fond, ce qui fait qu'on a même les trois parties, on a le narthex, la nef et le cœur. Mais c'est assez important, ça, parce qu'en fait, le chant et le service de la parole va être réparti aussi dans l'espace liturgique. À condition de maintenir toujours les chantres au même niveau que le peuple. Je pense qu'il faudrait vraiment ne plus faire ça, ne plus envoyer les chantres à la tribune. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait ne plus faire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que c'est clair pour tout le monde que c'est une chose à ne pas faire. Mais comme on le fait dans les cathédrales, même dans les églises plus modestes, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Mais ça nuit. Le chœur, les chants, on doit mettre au niveau du peuple. C'est comme il donne au peuple ce que le peuple doit reprendre. Il faut qu'il soit là. Vous voyez, c'est surtout dans quelque chose qui est qu'on appelle le prokimenon. Hein, donc le chant qui précède la lecture de l'épître, généralement. Bon, il y a des prokimenons qui précèdent d'autres lectures. Enfin, on va dire, là, je vois par exemple le prokimenon du baptême, par exemple. Alors, moi je le sais en ton occidental, hein, c'est en ton 3. Je ne vais pas pouvoir chanter, parce que je n'ai pas le voix. Mais donc, le préchant en dit, le Seigneur est mon salut, le Seigneur est mon sauveur et mon salut, de qui aurais-je crainte, un verset. Il le dit ça, il va le dire recto tono, et non pas le chanter. Recto tono. Alors ça va être repris par, merci beaucoup, ça va être repris par les autres chantres. Ensuite, il y a un verset. Ensuite, les chants reprennent tout. Ça fait... Et ensuite, le préchant reprend le début. Le Seigneur est mon salut. Et le « De qui aurais-je crainte » est repris par tout le peuple. Donc, le prokimenon, c'est vraiment l'exemple typique du rôle pédagogique joué par les chantres. C'était le Seigneur est mon salut. Ne pas apporter ce dommage. De qui aurais-je craint le Seigneur ? De qui aurais-je craint ? Après ça, il y a un verset. Bon, donc, il y a Antonio recto tono. C'est repris avec la mélodie. Le verset est dit recto tono. C'est repris encore avec la mélodie par tous les chants. Et après ça, la première partie est dite recto tono. Et l'ensemble est repris par les chants et par le peuple. Donc, si les chants sont dans une tribune, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Et donc, leur rôle pédagogique, la transmission de la parole, et de cette parole-là, de ce verset biblique, du psaume, il ne peut pas le jouer. C'est simple. Alors, il donne un petit peu des détails là-dessus. Il dit que Donc il faut arriver à accepter aussi ça, cette structure. Alors il dit ainsi, le prêtre s'adresse au nom de tous directement à Dieu, c'est vrai que c'est son rôle. Le diacre parle à l'assistance en l'incitant à prier. Bah, il dit ça, il dit « Domnule Senelugum, et ça c'est le diacre qui fait ça. Bon. Les chantres exposent des textes objectifs ou de méditation, c'est-à-dire des psaumes, et il faut dire que le rôle des chantres inclut la lecture. Par exemple, les lectures de l'Épître et de l'Ancien Testament doivent être faites normalement par une personne du cœur qui a dit, c'est celui qui a dit le prokiménon. Celui qui a dit le prokiménon, c'est lui qui sort du cœur et qui lit l'Épître ou l'Ancien Testament. Ce qui veut dire qu'il y a bien que le service des lectures fait partie du chant du cœur. Et donc, et là, dans ce moment-là, tout le monde écoute, y compris les prêtres. Tous écoutent. Dieu écoute, les prêtres écoutent, et le peuple écoute. Et la preuve qu'on écoute, c'est qu'on est assis. Ça, c'est assez important. Il y a aussi un rapport entre les positions corporelles et ce qui se passe. On est debout quand on chante, mais quand on est assis, c'est parce qu'on écoute. Et c'est-à-dire, c'est important, je remarque ça, c'est quand même dans la pratique. Par exemple, pendant la lecture de l'Épître, dans l'autel, l'évêque et les prêtres s'assoient. Et c'est pas parce qu'ils sont fatigués, parce que, genre comme Mgr Joseph, oui, ils sont habitués à rester debout pendant 10 heures, c'est pas un problème. C'est pas un problème de fatigue, c'est que l'écoute est quelque chose qui va avec la position assise. C'est ce qu'on appelle à propos des psaumes, on parle des catismes. Un catisme dans les psaumes, c'est quelque chose qu'on écoute assis, catizo. En grec, ça veut dire être assis. Et alors, oui, c'est simple. Donc, un catisme du psautier, c'est une lecture du psautier qui est faite par des chantres et qui est écoutée. Voilà, donc on est, et qui est écoutée assise. À l'inverse, les acatistes, on les dit debout, acatistes, et donc non assis. Bon, alors, ça pour dire que c'était pour le rôle des chantres. Et les fidèles, eux, répondent aux prêtres ou aux diacres, par exemple en disant Amen, ou avec ton esprit, et ils dialoguent. Alors, c'est assez important, ça. Un des éléments fondamentaux de la liturgie, de la structure de la liturgie, c'est le dialogue. Justement, ce n'est pas le monologue, c'est pas le soliloque, c'est pas le solo, il n'y a pas de solo dans l'Église, vous voyez. Et même le prêtre, quand le prêtre dit quelque chose, quand il dit seul, par exemple, la grande préface, oui. Il est digne, en vérité, de te célébrer, de te chanter, etc. Et en fait, il prépare une réponse. La première réponse, ça va être la réponse du cœur, qui va dire « Saint, 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 le Seigneur ». Et la deuxième réponse, ça va être celle du peuple tout entier, qui va dire « Amen », quand il va dire les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc, même quand le prêtre parle seul, il prépare une réponse, il est engagé dans un dialogue imminent. C'est pas. Il y a toujours un dialogue qui se prépare quelque part. La structure de la liturgie, elle est dialogique, je pourrais dire, ou dialogale, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et ça, justement, si on se rapporte à ce que dit Père Stanieloé, c'est très intéressant. Père Stanieloé a beaucoup insisté là-dessus. Il a insisté sur le fait qu'en fait, c'est ça, la condition humaine. La condition humaine telle qu'elle est issue de la création est une condition en dialogue. Le Père Dumitru dit ça, il dit que l'être humain a été appelé par Dieu du non-être à l'être, mais en vue du dialogue. Donc finalement, on s'aperçoit que le dialogue liturgique, il est enraciné dans la nature même des choses. Et que Dieu lui-même est un, si je peux dire, un être de dialogue, puisque Dieu est trinitaire. Le Père parle au Fils, le Fils parle au Père. Donc l'idée de soliloque ou de monologue, d'une certaine façon, n'est pas chrétienne. Et donc la liturgie est l'expression d'une réalité dialogale, interrelationnelle, interpersonnelle. Elle est l'image de la Trinité, elle est l'image du concile divin, du conciliabule divin. Elle est la répercussion du dialogue divino-humain qui date de la création même. La structure de la liturgie est quelque chose de naturel. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que nous défendons, avec des professeurs comme M. Kowalewski, nous défendons la liturgie comme caractère naturel. Alors, ça introduit une question qui est très importante, évidemment. C'est la relation entre la nature et la culture. Quand je vais dire que la liturgie est une activité naturelle, forcément, les gens vont me dire « Oui, mais... qu'est-ce que vous faites de la culture ?» C'est vrai que la liturgie est aussi quelque chose qui est culturel, puisque ça a été développé, on a cultivé ce qui était naturel, c'est le dialogue, on l'a cultivé. Donc la liturgie est une culture du dialogue, etc. Et en plus, la liturgie admet des éléments culturels qui viennent de chaque peuple, qui sont en particulier la langue, qui sont des formes nationales, on peut dire, que prend le chant traditionnel. Je disais tout à l'heure, par exemple, que le chant byzantin a pris en Roumanie une forme propre, qu'on peut appeler le byzantin roumain. Mais ça veut dire qu'il y a un apport de la culture de ce peuple-là au chant liturgique. Et que de même, quand on entend au monastère de Solan ou au monastère de Cantouque chanter le chant byzantin en langue française, on voit bien qu'il y a un apport de la culture française par la langue, par les accents. Et puis il y a d'autres éléments qui sont apportés par la culture dans le domaine de l'iconographie, dans le domaine dans le domaine de l'iconographie, c'est net, il y a quand même des formes iconographiques, des styles iconographiques qui permettent de reconnaître l'iconographie slave ou roumaine ou grecque ou copte ou je ne sais pas vraiment. Donc l'idée d'un enrichissement de la nature par la culture est une idée qui est évidemment admise. Par exemple, ce qui concerne les vêtements liturgiques, là aussi, c'est un élément quand même qui sont. On sait très bien culturellement d'où ça vient. Ça vient du temple, ça vient du monde juif, ou ça vient de l'Empire romain. On connaît à peu près l'origine culturelle des éléments qui se trouvent dans la liturgie. L'offrande de l'encens, par exemple, c'est culturel, mais c'est quand même culturel également. On sait que ça vient qu'on a toujours offert de l'encens pour les puissants, même les empereurs, des gens comme ça. Donc la liturgie, tout en étant une activité naturelle, je pense vraiment, c'est bien de dire ça, je crois quand même. Le culte est naturel, ça je crois, oui. Ouais, on peut dire ça quand même. Eh bien, tout en étant culturel, elle admet le culturel parce qu'elle cultive, que l'être humain d'abord est cultivé par la liturgie. Donc la liturgie en elle-même, en tant que nature, en tant qu'enracinée dans la nature de l'homme, elle cultive l'homme, donc elle contribue à la culture de l'homme. Il y a quand même un enrichissement de l'humanité par la vie liturgique, il y a une humanisation de l'homme par la vie liturgique, donc il y a une culture de l'homme. La liturgie en elle-même, au fond, est culturelle, on peut dire dans ce sens-là, et elle est culturelle parce qu'elle admet des éléments qui viennent de la tradition populaire, etc. Mais elle le fait avec discernement. J'en profite pour faire une remarque sans être désagréable, je suis là quand même pour ça, pour vous y dire les choses, que par exemple, ce n'est pas juste d'introduire des chants populaires dans la liturgie. Vous voyez, ça se fait beaucoup. Par exemple, j'ai vu une paroisse francophone où ça faisait plaisir aux personnes qui étaient là de chanter des chants de Noël, il est digne, et le divin enfant, il est né le divin enfant, chantons tous, résonnez, musette, c'est très très bien. Mais ça, si vous voulez, c'est un chant qui est du caractère populaire, qui est très beau d'ailleurs, ou les anges de nos campagnes, je ne sais pas quoi, il y en a des tas qui sont très beaux, mais ce n'est pas un chant liturgique. Donc c'est une erreur de l'introduire dans la liturgie. C'est quelque chose qui doit être chanté après la liturgie, après la clôture. Donc faites très attention, parce que ça déséquilibre la pédagogie propre de la liturgie. C'est un moment où c'est la parole de Dieu qui est servie et distribuée. C'est eucharistique. La liturgie est au fond de nature, elle est nature culturelle, naturelle, culturelle, mais elle est nature eucharistique, c'est-à-dire que la liturgie est essentiellement, fondamentalement, une distribution de la parole. Mais elle distribue la parole, pas autre chose. Elle ne distribue pas des chants populaires, même s'ils sont très beaux. Donc les chants populaires appartiennent à la culture, les collines des Roumains appartiennent à la culture roumaine, les Noëls français, tout ça, très bien, ça appartient à la culture. Mais le culturel doit, comment dire, être admis avec discernement, transfiguré, trouver sa place. Alors c'est un discernement, à avoir, que la tradition a toujours eu, en fait. Puisque, quels que soient les chants populaires, par exemple, ils ont toujours retrouvé leur place, mais ils n'ont pas envahi l'espace liturgique. Bon, donc c'était à propos des fidèles, en disant donc qu'ils sont en dialogue. Hein. En dialogue. Et quelquefois, ils sont en dialogue avec le prêtre, éventuellement avec le diable, mais surtout avec le prêtre, à qui ils répondent assez directement. Et ils sont en dialogue avec Dieu. Je vais m'arrêter après ça, parce que c'est à Dieu qu'ils disent « Kyrie eleison », ils le disent pas au prêtre, ils le disent à Dieu, et c'est à Dieu qu'ils disent « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, au moment de l'Évangile », c'est pas au prêtre. On dit « Lecture du Saint-Évangile », non, « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi », c'est à Dieu qu'ils parlent. Donc ça c'est intéressant, l'élément dialogal, ou dialogique, je ne sais pas comment dire, qui incombe aux fidèles, et qui doivent pouvoir assumer, il ne faut pas les empêcher. Il ne faut pas empêcher les fidèles d'assumer ça. Cet élément dialogal, il est soit un dialogue avec le prêtre, soit un dialogue avec Dieu même, ou éventuellement un dialogue avec le cœur, quand il reprend des réponses proposées par le cœur. Voilà, donc je m'arrête là-dessus. C'est la fin de ce premier cours. Je développe beaucoup, j'explique beaucoup, on n'avance pas énormément, mais... Je sens que ce sont des questions très importantes pour nous, pour nos paroisses. C'est aussi une façon de montrer que l'enseignement de Maxime Kowalewski n'est pas un enseignement arbitraire, mais correspond à un vrai besoin, un vrai sérieux liturgique, bien entendu. Je ne suis absolument pas là pour donner des notes à qui que ce soit, évidemment. Et donc, je vous renvoie, pour conclure encore, pardon, je vous renvoie donc au livre de Constantin Andronikov qui s'appelle « Le sens de la liturgie ». Je le montre si l'image marche encore. Le sens de la liturgie, c'est Paris, publié à Paris en 2009. Et c'est très beau. Il a mis le sens de la liturgie et en sous-titre la relation entre Dieu et l'homme. Justement, cet élément de dialogue. Bon, nous avons beaucoup de. Nous ne manquons pas de littérature. Voilà, donc là, on va passer au deuxième cours. Vous avez changé la.
J'ai changé la
cassette. Alors, le deuxième. Que nous avons en liturgie une semaine sur deux concerne ce qu'on appelle le typique en roumain ou le typikon presque partout. J'ai renvoyé pour ce domaine-là, j'ai renvoyé au très bon livre de l'archevêque Job Getcha. C'est un livre qu'il faut vraiment enfin, c'est un livre un peu pour les spécialistes évidemment, mais qu'on pourrait avoir, je pense, dans les paroisses tout de même. Il devrait y avoir un exemplaire de ça dans les paroisses, qui s'appelle le Typikon décrypté, Paris 2009. C'est déjà... Oui, le livre de Constantin Andronikov sur la liturgie, 2009, c'est une réédition. Hein. Mais donc, le livre de Mgr Job, c'est 2009, sur le Typikon. Je ne l'ai pas apporté ce soir parce que je ne vais pas m'en servir, c'est très complexe. Enfin, j'en parle, c'est très important, parce qu'il donne, si vous voulez, les comparaisons entre les différentes traditions, parce que j'ai déjà dit ça, j'en redis, qu'on appelle le typikon, c'est-à-dire l'ordre de la célébration, on appelle ça en français ou en latin, on appelle ça l'ordo liturgique, ou typikon liturgique, c'est universel, et en même temps, ça accepte des couleurs, je veux dire, locales ou nationales. Il y a quand même des usages différents suivant les églises souveraines. Et même à l'intérieur d'une même église souveraine, par exemple notre église roumaine, je suis près de l'église roumaine, dans notre église roumaine, il y a des différences dans le typikon suivant les métropoles. Suivant si on est en Olténie, si on est en Transylvanie ou en Moldavie, ça va bon. Des usages, ce sont des usages qui fait que le typikon, quand même quelque chose d'assez souple, et qu'il faut, quand on va dans un endroit ou dans un autre, il faut avec beaucoup d'humilité, disons, se soumettre aux usages locaux. Et moi, donc, j'ai pris comme base, disons, cette année, la présentation du bicône de notre église, du bicône de l'église roumaine. Alors, il y a une remarque à faire, c'est que ce bicône non seulement varie suivant les provinces, mais très peu, mais un peu, mais en plus, il est soumis à des réformes. Par exemple, le Saint-Synode, de temps en temps, produit des textes en disant « il ne faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça ». Donc, il a introduit des modifications dans le typicole. L'exemple récent, qui ne concerne pas ce que je fais là, mais enfin, je cite comme exemple, c'est que le fait qu'il y avait un usage dans notre église roumaine, que j'avais appris moi personnellement, qui consistait à dire la prière roi céleste, Imparate Celeste, c'est-à-dire trois fois au début de la liturgie. Première fois, gloire à Dieu, au pieu des cieux, paix sur la terre. Hein. Et la troisième fois, Seigneur ouvre mes lèvres, doit me les bouser, les mêler, les disquis, chigoura, mère, va vestir la oudata. Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche. Donc on le disait trois fois. Mais ne croyez pas ça. Maintenant, donc on a tout changé. Enfin, c'est pas gravissime. Mais les nouvelles directives de notre église consistent à le dire une fois. Donc on m'a dit ça, donc je me soumets à ça, c'est pas extrêmement grave. Mais c'est bien d'être quand même d'accord pour ne pas créer de désordre. Parce que moi, du coup, à l'endroit où j'ai célébré dimanche, le diacre était parti pour faire trois fois, je dis non, c'est une fois. Et du coup, ça l'a gêné. C'est de ma faute, j'aurais rien dû dire du tout, et lui dire après, ou bien lui dire avant. Mais évidemment, ça a perturbé un petit peu, très peu, mais un peu. Bon, ça pour dire que je tiens à dire ça parce que le typicône, si vous voulez, ce n'est pas une règle. J'ai déjà expliqué les cours précédents, je crois. C'est quelque chose de très intéressant, le typicône. Ça exprime la communion entre nous, ça exprime qu'on fait les choses ensemble, ça exprime une concorde, une homonia, comme disent les Grecs, une unanimité, une humilité aussi, une humilité. Quand on voit les évêques, si vous voulez, qui obéissent aux typicônes, c'est des gens humbles, oui, qui soumettent à la tradition. Ils ont beau être évêques, métropolites, patriarches, tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup appris avec le patriarche Théoctiste. Le patriarche Théoctiste, c'est un homme qui avait une connaissance de la liturgie absolument exceptionnelle, mais c'était, je sais pas comment dire, c'était biologique chez lui. Il avait été, c'était un homme qui venait du village. C'est un homme qui avait été au monastère très jeune. Il connaissait, il connaissait toute la tradition liturgique par cœur. C'était naturel chez lui. Et donc, le typicône était chez lui quelque chose d'organique. Mais il était très, très obéissant. Très, très obéissant. Il n'aurait jamais, introduit d'innovation par le culte. Jamais, 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 jamais. Il n'innovait pas. L'idée qu'on va innover, que tel prêtre doit faire comme ça, tel prêtre doit faire comme ça, ou l'évêque un tel va faire comme ça, c'est pas du tout l'esprit orthodoxe. L'esprit orthodoxe n'est pas un esprit d'innovation. L'esprit orthodoxe est un esprit d'obéissance, un esprit humble. Les évêques font ce que fait l'Église, les prêtres font ce que font l'Église, ce que fait l'Église, ce que font leurs évêques. Et les fidèles aussi peuvent apprendre à être humbles. L'humilité n'est pas réservée aux hiérarches, mais c'est très très important. C'est très important. Et ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas du formalisme, vous voyez, c'est rien de tout ça. Moi, je fais partie des gens qui défendent le typicône comme étant justement quelque chose de profondément spirituel. Le respect du typicône, c'est une attitude, oui, c'est une attitude spirituelle, c'est une attitude ascétique. Ce sont les moines, les ascètes qui respectent le typicône. Ceux qui ne le respectent pas, sont des gens qui ont l'esprit du monde, qui n'ont pas d'ascèse, qui n'ont pas d'obéissance, qui n'ont pas d'ascoutare. C'est le mot que vous avez en roumain, ils sont très beaux. Nevoinsa, ascoutare, ça veut dire quelque chose quand même. Ascoutare, ça veut dire qu'on écoute et qu'on obéit. Parce qu'en français, c'est pas très facile, en français, le mot obéissance a une connotation très désagréable. C'est un sens un peu juridique, un peu militaire. Un peu, voilà, on obéit parce qu'il faut obéir. Mais ça parle le sens spirituel de ascoltare, qui est vraiment une disposition spirituelle à faire la volonté de Dieu, apprendre des anciens, à respecter les anciens, oui, c'est pas très facile hein, en français, le mot obéissance n'est pas facile à utiliser en français. Les Français ne comprennent pas, ils se révoltent tout de suite. Ah oui, les Français se révoltent parce qu'il y a eu la Révolution française, alors du coup, il n'y a plus d'obéissance. Mais bon, c'est fou. Moi, je suis quelquefois plus roumain que français, mais je comprends bien cette. Mais j'ai vu ça, parce que je l'ai eu. Moi, j'ai eu comme père spirituel le père Sofiane. Bon, père Sofiane, si vous voulez, c'est un homme qui, quand il célébrait les offices de l'Église, il était absolument dans l'obéissance. Et je l'ai vu une fois. Lui qui était tellement doux, tellement gentil, tellement bon, tellement un homme de paix, je me rappelle de ça. Il était dans le sanctuaire, pendant l'office de matine, il était assis au moment d'une lecture, et les chantres, malheureusement, étaient dans une espèce de tribune. Et là, il y a eu quelque chose, je ne sais plus quoi. Mais un chantre a fait une erreur, une faute, et le père Sofiane n'a pas laissé passer l'erreur. Il a demandé à un garçon d'aller le chercher, et le chantre est descendu jusque dans le sanctuaire, et là, le père Sofiane l'a repris, et je me rappelle qu'il lui avait dit ça, il lui a dit, mais on est dans l'église, et on ne doit pas se faire remarquer, tu chantes sans qu'on t'entende, tu chantes comme les autres, c'est la liturgie ici, c'est pas un concert. Mais il a vraiment repris, oui. Et mais lui-même, père Sofiane, était toujours obéissant. Il disait les prières avant la communion, il disait les prières après la communion. Il était comme un petit enfant. Et le patriarche Toxis également. C'est très important. Bon, donc tout ça pour dire que le typicon, c'est vraiment important. Alors, moi, je suis simplement ce que j'ai sous les yeux. J'ai déjà dit, c'est une édition du typicon qui est sujette à révision parce qu'elle a été promulguée en 1976, donc c'est déjà un petit peu ancien, mais ça fait rien. Ce qui a pu changer n'est pas si important. Et alors, il faut savoir que l'ordo ou le typicon, on le trouve également dans les livres liturgiques. Par exemple, dans le Molitfelnik, le livre de prière, et dans le livre de la liturgie, Liturgière, il y a également des rubriques, des éléments du typicon. Donc en fait, toutes les publications liturgiques comportent leur part de rubriques, d'explications sur ce que tu dois faire, quand tu dois entrer, sortir, etc. Bon. Cherche le mot en français pour Molitfelnik. Ecologe, voilà. Efkologion, c'est un mot grec d'ailleurs. L'efkologion, ou le ecologe en français, c'est la traduction du roumain Molitfelnik, et pas du roumain, dire qu'il est du slave, parce que Molitf, c'est. Bon. Tout le monde est d'accord qu'il y a en roumain quelques mots comme ça d'origine slave. Voilà. Alors, déjà, il y a un premier point pour je prends les points un petit peu. C'est des points qui paraissent modestes, mais qui sont très importants. Par exemple, un des points qui est souligné dans le typicon de l'Église, c'est le caractère unique. Je ne rappelle pas si j'en avais parlé de ça. L'unicité de la liturgie dans les jours liturgiques. Seulement, parlons si c'est une répétition. Il me semble que je n'avais pas abordé cette question-là. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est une règle importante, qui est respectée dans nos paroisses, partout. Le seul cas où ce n'est pas respecté, c'est quand un de mes amis qui est prêtre dans des villages où il y a plusieurs églises et pas d'autres prêtres, c'est vrai qu'il célèbre plusieurs fois. Il célèbre à 10h à tel endroit, à 11h à tel autre, à midi dans une troisième église. Bon, ça c'est par économie, parce que pas faire autrement, mais normalement, ça n'existe pas. Parce que d'après la tradition orthodoxe, un prêtre ne peut célébrer qu'une seule liturgie par jour et non pas plusieurs liturgies successives, ni le même jour, ni, à plus forte raison, sur le même autel. Hein, donc il y a un seul autel, une seule liturgie, une seule journée. Alors, ça c'est très important, c'est pas une règle simplement, pour qu'il y ait de l'ordre dans l'église, mais c'est lié au caractère même de la liturgie. La liturgie, en fait, la liturgie est unique. On ne devrait jamais dire les liturgies. D'ailleurs, dans le langage, en roumain en tout cas, on n'emploie pratiquement jamais le mot liturgie au pluriel, je crois. C'est toujours la liturgie, Sfinta liturgie, Domnésiasca liturgie. Mais c'est au singulier. Mais en français, c'est la divine liturgie, la sainte liturgie. Et quand on commence à dire des liturgies, on ne sait plus très bien de quoi on parle, et en principe, il faudrait mieux intervenir. La liturgie n'est pas une activité qui accepte le pluriel, parce qu'elle est toujours une unique, l'unique et seule et définitive liturgie accomplie par le Christ. Et il n'y a pas, la liturgie ne se répète pas. Elle ne se répète pas. C'est un temps absolu, c'est un temps unique. Et le caractère unique du temps liturgique et de l'action liturgique est souligné par le caractère unique du jour, de la journée. Donc la journée commence, comme vous le savez très bien, la veille au soir, à l'heure des vêpres, et se termine le jour suivant, à l'office de nonne, et donc à la fin de la journée liturgique. Bon, mais cette journée liturgique, elle est absolue, elle est unique, et elle ne comporte pas donc de répétition. Alors tout ce qui peut se faire en contradiction avec ce principe doit être considéré comme de caractère économique, parce que pour une raison qui m'échappe présentement, le prêtre aurait la bénédiction de l'évêque de faire autrement. Ou bien, alors ça c'est un petit peu des adaptations un peu hypocrites, disons, je trouve, pardonnez-moi, c'est que dans certaines églises, on a plusieurs autels. Par exemple, après je pourrais citer des églises, mais ça m'a demandé de le faire, je connais l'église russe, où il y a un autel principal, et puis un autel à gauche, et il y a un autel à droite. Et après, il y a trois autels. Donc à la limite, si ça les arrange, ils peuvent célébrer plusieurs fois. Ça peut être un autre prêtre qui vient, qui va célébrer, mais pas sur l'autel principal, sur l'autel numéro 2. Mais ça, c'est un petit peu des combines. Si vous voulez, oui. Bon, ce n'est pas mon rôle de critiquer, mais j'attire l'attention sur le fait que quand même, les choses ont un sens. Alors bien sûr, si on célébrait la liturgie plusieurs fois, les fidèles qui viennent pour la liturgie de 9h, les fidèles qui viennent pour la liturgie... mais ça, nous les orthodoxes, ne le faisons pas. Ça se fait dans d'autres milieux, de chrétiens, et ça ne se fait pas chez nous. Voilà, bon, donc ça, vous vous rappellerez de ça, l'unicité de l'autel. Alors ici, il dit, les églises orthodoxes qui ont plusieurs autels sont kutotul rari. Hein, finalement, c'est quand même exceptionnel. Alors bien sûr, dans celles-ci, ils peuvent se célébrer, si besoin, la névoyée, c'est-à-dire, si besoin, par exemple, un jour de fête, hein, ou... au jour de Pâques, quand vous venez l'homme et moult à la basilique, encore, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, peut-être, vous voyez, non, ils peuvent se célébrer mal moult et les tulgis, là le pluriel, de quatre plots différits, ou les concomitants, en même temps, bon, avec des églises, avec des hôtels superposés, ou bien consécutifs. Ah, mais c'est une petite note ici pour dire qu'il ne faut pas le faire, en fait, bon, que ça se faisait absolument exceptionnel et qu'on est en train de dégrader quelque chose. Bon, à la maison au Saint-Sépulcre, à Jérusalem, il y a des phénomènes de ce style-là. Il faut quand même reconnaître les choses, pour être honnête. Au Saint-Sépulcre, l'autre jour j'étais là-bas, on a célébré dans la grotte de la Nativité. Non, c'était pas au Saint-Sépulcre, c'était à Bethléem. Dans la grotte de la Nativité, on a célébré en arabe, hein, avec tous les orthodoxes arabes qui étaient là pour le dimanche. C'est très très beau, ils étaient nombreux, très très nombreux, ils chantaient, tout comme ça. Très bien. Et au même moment, en haut, donc superposé, on a célébré la liturgie avec l'évêque de la ville, en grec, avec beaucoup de monde. C'était les gens civilisés qui célébraient en haut. Et les pauvres gens en bas. Bon. Donc ça arrive. Mais là, c'est un cas typique où c'est évidemment dommage. Parce que la vraie liturgie, ça aurait été que tous, grecs, arabes, tout ce que tu veux, célèbrent ensemble. Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Voilà, c'est peut-être que, bon. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans le Typikon, c'est qu'il dit quand même ce qui est bien, ce qui est l'horizon véritable, ce qui est vraiment la volonté de Dieu dans l'Église. Et à partir de ça, on sait que si on ne le fait pas, on sait que ce soit une erreur, soit une économie, et que ce n'est pas bon. Mais on n'essaie pas, de nous faire prendre le bien pour le mal ou le mal pour le bien. Et ce qui est bien, c'est ça. Alors, si tu ne le fais pas, tu as peut-être une raison, mais ce n'est pas le bien. C'est le principe, c'est très intéressant, c'est typique aussi de notre Église orthodoxe. Hein. C'est ce qu'on appelle le principe d'économie. Une économie, ce n'est jamais la transformation d'un mal en bien ou d'un bien en mal, jamais, jamais. C'est une transgression de la règle pour le bien d'une personne ou d'une communauté ou d'un moment en particulier. C'est une exception en faite qui dépend de l'évêque d'ailleurs. Et l'évêque qui est le responsable de l'économie et non pas le prêtre. Mais qui est donc une exception, une transgression circonstanciée, contextuelle. Mais ce n'est pas une modification de la règle elle-même. C'est important. Voilà. Bon, donc ça, vous retenez ça, c'est vraiment important. Il faut savoir ça. Et quand on est étudiant en théologie, on doit savoir ça. Bon, ensuite, un deuxième point qui est important, sur lequel insiste notre typicon roumain, c'est l'heure de la célébration de la divine liturgie. Alors ça, c'est une question qui est vraiment très très délicate et je dirais un petit peu douloureuse. Alors, le typicon ici rappelle le principe. C'est-à-dire, en ce qui concerne le moment du jour consacré au début de la célébration de la Sainte Liturgie, la liturgie de selon Saint Jean Chrysostome ou selon Saint Basile, d'après la règle ancienne de notre Église, dopo predania veche abiselici nostri, dans la predania, c'est vraiment c'est un mot slave aussi, ça, pour désigner la règle. Eh bien, la règle ancienne, là, il traduit dire predania regula. Et la règle, c'est la troisième heure du jour. Chasul atreilea dinzi. C'est ça la tradition véritable. Et on le sait, parce que quand vous entendez la divine liturgie, si les prières disent les prières à haute voix, ils disent Seigneur notre Dieu, toi qui es la troisième heure à envoyer à tes apôtres l'Esprit Saint, ne le retire pas de nous, toi qui es bonté, mais renouvelle-nous par ton Saint-Esprit. Vous n'entendez jamais cette prière-là. Là, il est prêt de dire trois fois. Une fois le protos, une fois celui qui est à droite, une fois qui est à gauche. Donc, dans la liturgie elle-même, le Saint-Jean-Chrysostome ou le Saint-Basile, c'est bien indiqué qu'on est à la troisième heure. Intéressant, mais pourquoi? Parce que la liturgie est un moment pentecostal. Et moi, autrefois, je ne savais pas ça. Je pensais que la liturgie devait être célébrée au début du jour, parce que c'est le moment de la résurrection, quand les femmes, les mérophores, ont été au tombeau. Je pensais que c'était ça. Non. C'était bien de faire comme ça, au fond. Et en fait, non. Parce que si on fait ça, on célèbre la résurrection, mais on ne célèbre pas la Pentecôte. Ah. Donc, la célébration de la liturgie doit inclure l'ensemble du mystère du salut. C'est très intéressant. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que la troisième heure du jour? Ça peut dépendre de l'année, hein. Ça dépend de si on est en hiver ou en été, ça peut varier. Mais ce serait ça, là. C'est-à-dire, en fait, ça correspond à l'heure de tierce. C'est-à-dire, même dans l'ordo, par exemple, si on célèbre tout, on a par exemple l'office de minuit, une fête de matine, après ça l'office de prime, et après ça la divine liturgie, après l'office de prime. Et donc la liturgie est à l'heure de tierce. Hein, vous connaissez ça, je crois. À l'heure de la troisième heure, atelier. En français, on dit l'heure de tierce. Il y a prime, tierce, sexte et nonne, les heures du jour, les heures canoniales. Ben, la liturgie est célébrée, non pas après le vice de tierce, mais à la place de le vice de tierce. Elle est après le vice de prime. Je crois bien. Si je me trompe, vous me dites. Mais je ne crois pas me tromper. Donc c'est assez important. Alors, quand on dit ça, c'est parce qu'on dit mais qu'on pourrait peut-être faire ça dans les paroisses. Alors, souvent, on célèbre beaucoup trop tard. On célèbre à 10h30. Mais c'est beaucoup plus tard, vous voyez. Ça indique qu'on pourrait célébrer beaucoup plus tôt que cela. Et qu'il y a, donc, c'est vrai qu'il y a une dynamique dans la célébration qui est liée quand même aux heures du jour. Enfin bon. Et il dit, c'est approximativement 9h. Et non pas 10h30.
Donc c'est 10h.
Comment ?
Chez nous, c'est
10h. Oui, c'est dans beaucoup d'églises, dans la cathédrale, je pense, beaucoup d'églises, c'est 10h, 10h30, ce qui est un peu tard, au fond. Par rapport au jeûne eucharistique, ça fait quand même attendre beaucoup, comme il y a 11h, 11h30, midi, ça fait un peu tard, oui. Et en tout cas, ce n'est pas la même lumière, ce n'est pas la même... Bon, voilà, donc, alors il dit, alors ça il donne, c'est intéressant parce qu'il donne comme explication, non pas ce que j'ai donné moi, c'est le lien avec la Pentecôte, mais le lien avec la crucifixion. Ah bon, il dit les deux, pardon. Il dit, quand le Seigneur a été crucifié, comme le dit l'évangile selon saint Marc, chapitre 15, verset 25, et quand le Saint-Esprit est descendu sur les saints apôtres. Donc ce sont deux événements qui sont commémorés, qui sont pas commémorés, mais indiqués. Donc c'est le mystère de la croix et le mystère de la Pentecôte. Alors il y a une note ici. C'est dans Liturguière, les conseils qu'ils ont donnés, en ce qui concerne le début de la liturgie. Le temps de la célébration, d'après l'habitude de l'Église ancienne, est la troisième heure du jour, c'est-à-dire 9h. Il y a mais si c'est nécessaire, la Sainte Liturgie peut être célébrée soit plus tard, soit plus tôt, soit mai de diminuatia. En se numa inainte de asse lumina de ziwa. Ça, c'est intéressant, ça veut dire en tout cas, pas avant la lumière du jour. À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il l'a dit, mais il ne le dit pas, mais à cause de la résurrection, justement. Parce que quand les femmes sont été au tombeau, c'était au lever du jour. Donc c'est à ce moment-là. Ni je doupe à mes heures, et surtout pas avant l'après-midi, puisque. Oui, c'est une explication qui n'en est pas une. Il dit, puisque celui qui va faire ça fera une erreur. Mais, non, c'est pas, mais l'erreur, c'est que après l'après-midi, le soleil décline. Et on ne célèbre pas la liturgie quand le soleil décline. C'est intéressant, on ne célèbre pas la liturgie à 3h de l'après-midi, alors qu'on pourrait dire, si, pourquoi pas, c'est le vendredi, c'est l'heure à laquelle le Christ est mort. Mais non, parce que la liturgie, ce n'est pas la commémoration de la mort, c'est la commémoration de la résurrection. C'est intéressant.
Chez les catholiques.
Voilà, alors ça, mais justement, c'est là qu'on voit la différence. C'est que dès que vous sortez du milieu orthodoxe, vous allez rencontrer d'autres manières de faire, mais qui ne tiennent pas compte de ça. Oui. C'est ça la différence entre eux et nous. C'est bien qu'on est meilleur qu'eux, mais qu'on a un peu on tient au sens des choses. Et là, alors je pense que ça pose, peut-être qu'on en parle après, ça pose aussi la question des liturgies vespérales. Vous savez que là, par exemple, pour Noël, la semaine dernière, dans certaines églises, pas ici, mais dans d'autres, à la crypte, je crois, Saint-Sulpice, et puis à Montpellier aussi, nous avons fait comme ça, on a célébré le 24 la liturgie selon Saint-Basile, précédée des vêpres. Après ça, tout le monde était couché, et le lendemain, on est revenu, et on a célébré le 25 au matin la liturgie selon Saint-Jean-Chrysostome. C'est sur le modèle de Pâques, en fait. Et là, en fait, effectivement, il y a l'existence d'une célébration liturgique vespérale, unie aux vêpres, dans des veilles de très, très grandes fêtes. C'est un cas, on va y venir, c'est des cas très très particuliers, qui sont en contradiction avec ce qu'on dit là, évidemment. On va venir à ça, parce que c'est quand même très particulier, puisque dans ce cas-là, la liturgie qui est célébrée, a une forme très différente, puisque toute la première partie de la liturgie est occupée par les vêpres. On rattrape la liturgie à l'épître. Donc il n'y a pas les antiennes, il n'y a pas de petite entrée. Ah si, il y a une entrée, avec l'évangile pendant les vêpres, qui remplace l'entrée de la liturgie. Ah bon, c'est vraiment très différent quand même, comme forme. Donc je pense que ce sera l'objet d'une étude particulière. Alors, ils disent quand même que dans les églises paroissiales, la liturgie peut commencer quelquefois plus tôt, ce qu'on vient de dire, et dans l'église des villes, elle commence généralement plus tard, vers 10h, parce qu'on a dit, bon. Et alors, en ce qui concerne la liturgie des présanctifiés, ça va beaucoup. Là, ils ne sont pas très clairs, mais vous savez, c'est les trucs des présanctifiés, c'est la vie de vêpres. Donc, je sais très bien que dans certaines églises, on célèbre la liturgie des présanctifiés à midi, que Dieu nous pardonne, parce que ça permet aux gens de venir, parce que ça fait tenir le jeûne moins longtemps. Mais ça, ce n'est pas la tradition. La vraie tradition, c'est que l'office des Mainainte Sincite, d'Argent, ça doit être célébré au 27-27, un office de vêpres, ça commence déjà par le psaume 104. Et donc, ça veut dire qu'on tient le jeûne toute la journée et qu'on communie le soir, qu'on mange après. Ce qui est la tradition très ancienne. Donc, ça, là, vous voyez, il y a juste deux lignes, qui sont assez discrets sur le sujet. Il dit simplement, la liturgia da lui la mainante sincite, fin unito que vescegna, se face de regula, sheva maiterziu. Sheva maiterziu, bon. Bon, là, il s'engage pas trop. Mais preamias. Non, mais ça, c'est tout à fait. Bon, typiquement, je me permets de compléter ici. Je suis là pour ça aussi. Pour dire que et qu'il en est de même pour les liturgies vespérales. Genre Saint-Basile, ça doit être célébré le soir et non pas le matin. Je sais très bien que dans les paroisses, le samedi saint, on célèbre les liturgies de Saint-Basile, unis aux vêpres, le matin, entre 11h et 1h, je sais très bien. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce que c'est au contraire la liturgie pour Pâques, c'est la liturgie de toutes les lectures qui sont liées à la création du monde. On baptise aussi les gens. Ah, c'est une liturgie baptismale, c'est l'ancienne liturgie baptismale qui existait aussi dans la tradition occidentale. On avait une liturgie baptismale le soir du samedi saint, et après ça il y a la liturgie de l'aurore, hein, mais qui est le jour suivant, qui est la liturgie du troisième jour, et qui effectivement se célèbre au lever du soleil ou à la troisième heure ici. Donc en fait là, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'en fait, ce qu'indique le typikon, c'est que la célébration liturgique correspond à une sanctification du temps. Du point de vue théologique, le temps est une créature de Dieu, comme l'espace. Et il est donné à l'être humain pour que l'être humain le transfigure, le lui offre, le lui consacre, et Dieu lui-même veut le sanctifier. Donc il y a une sanctification du temps. Le temps n'est pas, c'est pas n'importe quoi, le temps n'est pas arbitraire, les moments ne sont pas arbitraires. Il y a un temps, comme dit le livre des Proverbes, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Et cette expression là veut dire que le temps a un sens, que le temps a un contenu, que le temps est habité aussi par le Verbe. Vous voyez qu'il est sanctifié, qu'il est consacré, comme il l'est pendant l'année liturgique. Par la semaine, le dimanche, lundi, mardi, ça correspond à une sanctification du temps, par le cycle hebdomadaire. Mais le cycle hebdomadaire est une chose, le cycle diurne correspond également à une sanctification du temps. Or, dans la pratique paroissiale, on respecte même le cycle hebdomadaire tout de même, mais le cycle diurne est souvent négligé parce que c'est peut-être pas très facile. Il faut savoir qu'il y a des pays, par exemple, où l'occupation musulmane fait qu'il est interdit aux chrétiens de se réunir le dimanche. Ils n'ont pas de congé. Ah non, le jour de congé, c'est vendredi. Bon. Alors, quand tu es juif ou chrétien, t'as pas ton samedi et t'as pas ton dimanche. Donc, que faire? Et à ce moment-là, les chrétiens qui vivent dans ces pays-là, ils s'élèvent la nuit, très tôt le matin, avant d'aller au travail, le dimanche matin, très tôt avant d'aller travailler, parce qu'on les oblige à travailler le dimanche. Et donc, il y a aussi des circonstances où les chrétiens font de leur mieux, mais c'est pas toujours facile, hein. Voilà, alors après ça, donc c'est oui, c'est intéressant. Il donne comme exception pour ces différentes règles la fête de la résurrection quand la Sainte Liturgie est célébrée à la suite de l'outraigne, c'est-à-dire des matines, dans la deuxième partie de la nuit, c'est-à-dire approximativement entre 2 heures, 2 ou 3 heures et 4 ou 5 heures du matin. Donc c'est la seule exception donnée d'une célébration de la liturgie beaucoup plus tôt, en fait. Beaucoup plus tôt. Et c'est ça, en fait, parce que c'est un moment où je pense qu'on veut intégrer le mystère des miroirs. Alors, de contenir tout, mais c'est le seul moment qui donne. Et ce qui est intéressant, parce que bon, là, donc, on va être en faute. Les chrétiens, les orthodoxes, comme certains d'entre nous, qui célèbrent par exemple Noël dans la liturgie de la nuit, sont en tort par rapport à ça. Et on ne devrait pas le faire. C'est la seule exception, c'est pour Pâques. Toutes les autres, dans tous les autres cas, la divine liturgie doit être célébrée en principe à 9h le matin, c'est-à-dire pas la troisième heure, comme on dit, mais pas plus tôt. Donc ça, c'est intéressant. Je vais le dire à mes collègues, parce que c'est vrai que, bon, je suis une paroisse que je connais assez bien, ils font ça pour Noël, ils commencent, ils font l'office de matine vers 9h, 9-10h, et après ça, ils célèbrent la liturgie selon Saint Jean-Chrysostome, comme ils le font pour Pâques. Ils ont copié sur le modèle de Pâques. Mais en fait, d'après le Typicon, ils ont en tort. Mais il y a quelque chose quand même qui est rigoureux. Et donc là, par exemple, pour Noël, les paroisses qui ont célébré la liturgie de Saint-Basile précédée des Vêpres, ils ont dû commencer vers 6h, 6-7h. Mais ça, c'est autre chose, c'est la liturgie vespérale. Mais après ça, la liturgie du jour, ils l'ont célébré le 25 au matin, mais pas la nuit. Il y a quand même, ça a un sens quand même. Je pense que je pense qu'il faut quand même suivre le typicon. Même si on ne comprend pas aujourd'hui, on comprendra peut-être demain. Donc vous notez ça, que la seule exception, c'est Pâques. Cela dit, il ajoute que la même habitude ancienne s'est conservée dans certaines régions, in une les Perses, également pour la fête de Noël. Enfin, c'est une sorte de contamination du fils pascal. Quand la semenea, sont les liturgies officielles, sprechit un nopsi, sau dix de diminuatia. Mais il le présente, vous voyez, comme. Pas comme une erreur fondamentale, si vous voulez, mais comme une espèce de copie sur le mystère pascal. Mais en fait, c'est au fond pas très juste de le faire. Parce que là aussi, le mystère pascal est unique. Le mystère de Noël, c'est pas le mystère pascal. Même s'il ressent, même s'il le prépare, tout ce qu'on veut, ce n'est pas. Alors, moi, je trouve que c'est très bien ces remarques. Vous voyez, c'est une espèce de précision, de justesse. Moi, de toute façon, je suis. Je suis là pour ça, voilà, je suis cohérent, disons. Alors il y a un dernier point que je voudrais aborder, qui est un point un peu technique, enfin, il nous reste une vingtaine de minutes, c'est en ce qui concerne la liturgie. Donc on vient de parler des différents types de liturgie, on vient de parler du moment à laquelle ça doit se faire, parce qu'on se prépare à célébrer la liturgie, au fond. Alors après ça, on va voir, mais qu'est-ce qu'il faut pour célébrer la liturgie? De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Alors, c'est très intéressant, vous allez voir. nécessaire. C'est surtout important, par exemple, pour ceux d'entre nous qui empruntent une église qui n'est pas eux. Par exemple, on leur prête une église catholique, on leur prête un garage, on leur prête une salle dans une maison, un endroit où ils vont célébrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour célébrer? Mais voilà. Il faut d'abord ce qu'on appelle, en français on dit antimension, vous dites en roumain vous dites antimis. Qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? Je le rappelle pour ceux que vous savez tous, bien entendu, moi je le rappelle. L'antimis ou antimension, c'est comme son nom l'indique, ça remplace une table. C'est un hôtel portatif. Anti, comme dit antizoron, c'est ce qui remplace les dons. Antimis, antimension, c'est ce qui remplace la table. Donc c'est un hôtel portatif. Bon, et cet hôtel portatif, à quoi est-ce qu'il ressemble? Il ressemble en fait à. Comment dire, ce tissu qu'on a, la descente de croix, comment ça s'appelle, qu'on a le Vendredi Saint, le. Comment on appelle déjà cette pièce? Le. Oui, le. Ah bon, c'est cette grande pièce qu'on porte en procession, sur laquelle il y a la déposition de la croix. Ça va me revenir, pardon. Donc c'est ce qu'on retrouve sur l'antimis. Il porte une icône, en fait, c'est une icône en tissu. Il y a quelques-uns qui sont brodés à la main, en soie, etc. C'est très très beau. Et donc, c'est une icône de la descente de la croix. Et autour de l'icône, il y a une phrase qui est « Le noble Joseph, descendit le corps très pur du Christ et l'enveloppa dans un sel neuf et le déposa dans un sépulcre. » Ce qu'on chante, le chant du Vendredi Saint, en fait. Enfin, du Vendredi Saint. Et l'épitaphion, voilà. C'est un épitaphion, mais de petite taille, en quelque sorte, qui est sur l'autel. Et alors, il a une différence avec l'épitaphion, que vous devez savoir. Quelle différence? Et c'est que dans l'antimis, ou antimension, se trouvent des reliques qui sont cousues dans la partie supérieure, dans la doublure de ce tissu. Et c'est des reliques que l'évêque place là pour rester. C'est une tradition très, très 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 ancienne chez les chrétiens, c'est d'offrir le sacrifice de la liturgie, l'offrir sur les corps des saints. Alors, en Occident, en Orient, et partout, les reliques ont été introduites dans l'autel même. Dans nos églises, je pense que c'est le cas ici, quand on consacre un autel dans une église orthodoxe, il y a une espèce de trou dans lequel on introduit des reliques et on ferme après avec de la cire. Donc il y a des reliques dans l'autel. Mais dans l'antimis, il y a aussi des reliques. Et il y a encore une différence entre l'antimis et l'épitaphe. Et laquelle? Non, je...
On
le
peut utiliser de Vendredi Saint jusqu'à...
Oui. En Occident, ça s'appelle le corporal. Mais ça n'a pas forcément le dessin d'une descente de croix. C'est un tissu dans lequel il y a des reliques et qui sert et qu'on ouvre pour mettre sur la table. Enfin, autrefois, maintenant ils ne le font plus, mais autrefois ils avaient ça. Ils appelaient ça le corporal parce que c'est le linge sur lequel on pose le corps du Christ. Mais donc dans la tradition qu'a gardée l'Église orthodoxe, on appelle ça tradition byzantine si vous voulez, donc ça représente. Les hommes de croix, c'est un épitaphion. Il y a des reliques, et en plus, il y a dans ce que j'ai pas encore dit, il doit y avoir la signature de l'évêque. Ça, c'est très intéressant. L'antimension, il est signé par l'évêque diocésain, et à côté de la signature de l'évêque, il doit y avoir l'attribution de cet épitaphion à telle église. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un lien. L'antimis, disons, est une pièce qui a une valeur liturgique, mais qui a une valeur canonique. Elle exprime le lien avec l'évêque, et elle exprime le lien avec une paroisse désignée, consacrée. Bon, alors ça c'est pareil, ça c'est la règle. Maintenant, quand on célèbre dans des lieux prêtés, on a un antimension qu'on plie, et qu'on emporte avec soi, qu'on déplie sous l'autel qui nous est prêté, vous voyez. Donc le caractère d'autel portatif, existe, ça existait dans l'Église ancienne. Il faut savoir que l'Église ancienne qui subissait des persécutions, justement, on enlevait tout On enlevait tout, on rangeait tout, on enlevait l'évangile, on enlevait tout, tout, tout. Même l'évangile était caché, il ne restait pas sur l'autel. Et on l'apportait solennellement, qui est resté dans la petite entrée, pour célébrer. Les vases sacrés, tout ça, c'était rangé. On avait peur qu'ils soient profanés par les hérétiques. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Parce que dans les pays du Moyen-Orient, actuellement, nos amis ou ennemis anti-chrétiens, ceux qui font toujours, c'est ça, c'est d'entrer dans les églises, de profaner l'autel, de profaner les vases sacrés, la première chose. Après ça, de crever les yeux des visages sur les icônes. Donc on sait très bien ça. Voilà. Bon. Mais sachez ça, hein. Et c'est très important, la signature de l'évêque, c'est le lien entre le prêtre et l'évêque. Il y a deux moments, où le prêtre embrasse, vous le voyez quand les portes des connaissances sont ouvertes, il embrasse l'antimension, mais il n'embrasse pas l'antimension, il embrasse la signature de l'évêque. Au début, après la litanie triple, on prie pour l'évêque de Sézan. Pas pour tous les évêques, pour l'évêque titulaire. Et quand on prie pour l'évêque titulaire, le prêtre, le premier des prêtres, déplie l'antimis de façon à faire apparaître la signature de l'évêque. Et à ce moment-là, lui et les autres prêtres, s'il y en a, viennent tous embrasser la signature de l'évêque. Ça veut dire que ce qu'ils font là, ils le font en obéissance à l'évêque. C'est comme s'ils embrassaient sa main. Ils le font avec la bénédiction de l'évêque. C'est très très important. Et il y a un autre moment où ils le font, c'est avant qu'on dise Christos in loculo nostrum, avant le credo, avant le crésul, les prêtres font tous le tour de l'autel comme ça, c'est pareil, ils embrassent la signature de l'évêque et le calice et la patène, et ils échangent le baiser entre eux. Et puis, il y a peut-être un autre moment, enfin, je pense à ces deux moments-là, qui sont des moments très très importants, où le lien canonique avec l'évêque est exprimé et souligné. Et ça, je le dis pour les éventuels futurs prêtres qui écoutent, on n'embrasse pas n'importe où, n'importe comment, on embrasse là. Voilà. Donc, je regarde l'heure, hein, voilà. Cet antimis, dit-il, il doit se trouver toujours sur la table, sur l'autel. Bon, alors ça, oui et non, je viens de le dire, hein, en cas de, quand on emprunte des lieux qui ne sont pas consacrés, ben on range chaque fois et on le remet chaque fois. Bon, ça, c'est par économie, mais ben c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de nos paroisses. Hein. La majorité de nos paroisses en France, actuellement, sont des lieux de culte prêtés, dans lesquels donc, on ne peut rien laisser. Même à Jérusalem, j'ai vu ça justement au Saint-Sépulcre, les orthodoxes célèbrent dans le tombeau du Christ, c'est très beau, c'est très petit, ils sont 3-4 là-dedans. Et ils font un hôtel sur de table, et après ça, ils rangent tout. Ils ne laissent rien. Donc il y a beaucoup de cas où on ne laisse rien, mais pour des raisons objectives. Vous voyez. Et autrement, ce qui est dit ici, c'est très vrai, sans cet antimis, on ne peut célébrer la liturgie ni dans l'église, ni en dehors de l'église. Fare de carne, nous, c'est pas se verci. Sventa liturgia nis in miserica, si nis afara in miserica. Note 50, dans certains cas, alors ça, les notes donnent toujours les. Dans certains cas, comme par exemple dans les jours de fête de certains monastères où viennent une grande foule de fidèles, pour que tous puissent écouter l'office, la sainte liturgie peut être célébrée en dehors de l'église, autour d'une grande table. Sous laquelle on pose l'antimension. Bien sûr, on a fait ça à Limours plusieurs fois, au lieu de célébrer dans l'église, on met une grande table dehors sous les arbres, et on en apporte l'antimis, on le met là, voilà, bien sûr. Et c'est parce que c'est un hôtel portatif, justement. Très bien. Voilà. Bon, donc ça c'est la première chose, donc ça, c'est faut que tout le monde sache ça, s'il n'y a pas l'antimis, on ne célèbre pas. Alors je dois confesser, parce que personne, on doit aussi dire les fautes qu'on fait. M'est arrivé d'aller en province, célébrer en province près de Cherbourg. Et alors c'est pareil, avec mon épouse, on préparait tout, on avait une valise dans laquelle on mettait tout ce qu'il fallait pour la liturgie. On avait oublié l'intimisme. Donc on est arrivé là-bas, on a préparé tout, les fidèles sont venus, on devait essayer pour la liturgie, pas d'intimisme. Et il y avait un autre prêtre qui était là, je dis au prêtre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous me donnez, qu'est-ce qu'on fait? Et donc nous avons pris sur nous de célébrer, on a dit, bon, on va célébrer et on va téléphoner à l'évêque. Donc ça peut arriver, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les gens qui étaient venus de loin, qui étaient préparés à communier, on ne peut pas leur dire, les enfants, vous rentrez chez vous. Mais donc, en fait, comme ce qui est important, c'est le lien avec l'évêque, dans ce cas-là, il suffisait de téléphoner à l'évêque, envoyer un SMS à l'évêque, ou l'appeler le lundi matin en disant, voilà ce qu'on a fait, pardonnez-nous, interdisez-nous de célébrer pendant un an s'il faut, on a fait ça pour les fidèles. Mais en principe, on ne célèbre pas s'il n'y a pas de... Alors ça, c'est vrai, c'est valable pour la divine liturgie. Hein. Ce n'est pas valable pour les autres offices. Si vous les célébrez vêpres, matines ou les autres offices, ça n'a pas de rapport. Hein. Pas de rapport. Quelquefois, bien sûr, quelquefois, l'antimis se trouve sur l'autel pour les vêpres, parce que les vêpres sont célébrées là où on va célébrer la liturgie le lendemain. Mais, par exemple, vous allez célébrer des vêpres à la maison ou à la campagne, hein, bah, vous n'avez pas besoin d'antimension, oui. C'est pour la liturgie eucharistique elle-même. Et pour l'offrande des saints dons, pour le sacrifice non sanglant. Voilà. Ah, encore oui. D'autres choses nécessaires, ce sont les vêtements liturgiques. Alors, ça, c'est une question qui est intéressante, parce qu'elle a aussi, par économie, on peut se trouver avec rien. Par exemple, dans les camps de concentration, pendant la guerre, et il y a les prêtres orthodoxes qui se sont trouvés à des fidèles orthodoxes dans un goulag quelconque. Ils n'avaient rien. Et certains, je connais des prêtres russes que je connais, ont dit, écoutez, on est des prêtres orthodoxes, vous êtes des fidèles orthodoxes, on est dimanche, vous êtes Pâques, on va célébrer. Et ils ont célébré comme ils ont pu. Vous voyez, en nommant leur évêque. Ils n'avaient pas d'antimension, et ils n'avaient pas de vêtements liturgiques non plus. Oui. C'est tout ça, il y a une espèce de, ce qui est important, c'est le sens des choses. Hein. Alors, mais comme voilà, quand même, ce qu'on dit, les saints, les sfinte et les vêchmite, c'est-à-dire les français, les vêtements sacrés, sont obligatoires. C'est que le prêtre ne peut officier la Sainte Liturgie, y compris la post-comédie, c'est-à-dire l'office de préparation, que revêtu de tous les vêtements presbytéraux. C'est-à-dire ce qu'on appelle le sticarion, qu'on appelle en français l'aubin, l'épitrachyle, qu'on appelle en français le... L'étole, pardon, briou, je pense à la ceinture, minécoutse, chifelon, les manchettes, qui sont, et le felonion, qu'on appelle en français la chasuble, qui est une espèce de manteau, en fait. Donc, ce qui est, c'est ça. Pour célébrer la divine liturgie, le prêtre doit avoir ça. L'aube, l'étole, la ceinture, les manchettes, et la chasuble. Il y a cinq éléments de vêtements liturgiques qui sont obligatoires. Obligatoires. Et je le dis parce que là aussi, je vois que je suis en faute moi-même. Ce soir, finalement, j'ai beaucoup de fautes à confesser. C'est que moi, je ne le ferai plus. C'est que moi, souvent, je fais la proscomédie sans la chasuble. Je fais la proscomédie, j'ai tous les vêtements, mais je laisse la chasuble posée. Mais je fais ça pour des raisons pratiques, c'est que souvent il faut aller parler à un fidèle, mais j'en m'envoie. D'après le typicon, j'ai tort. Je dois célébrer la proscomédie elle-même avec l'ensemble des vêtements. Donc je ne le ferai plus. Voilà. Et en ce qui concerne le diacre, il a également des vêtements qui sont obligatoires. Le sticharion aussi, j'ai dit l'aube. Ce qu'on appelle l'orarion, qui est l'étole propre au diacre, et les manchettes. Alors, je voudrais faire un petit commentaire avant d'arrêter de conclure sur ces vêtements. Un commentaire qui n'est pas fait là, mais que je peux apporter. Ce qu'on appelle le sticharion, Souvent, dans la pratique générale, souvent c'est un vêtement assez orné, même brodé, de couleurs, rouge, bleu, vert, etc. Or, il faut que vous sachiez, mes amis, qu'il s'agit ici de l'aube. C'est-à-dire que là, normalement, c'est un vêtement blanc, c'est le vêtement baptismal. Le sticarion, c'est l'aube porté par les nouveaux baptisés et que le prêtre revêt, ou que le diacre revêt, ou que l'évêque revêt, pour signifier ça, qu'il appartient au peuple baptismal et que tous les baptisés, ils les portent sur son dos, que l'assemblée est une assemblée baptismale. Donc, il faudrait encourager les paroisses à avoir des aubes blanches. Parce que aube, en français, ça vient de albus ou alba. Mais c'est pas très grave, si vous voulez. Mais le tout, c'est de savoir quand même le sens des choses. Et tout de même, c'est l'aube baptismale, quand même. C'est le vêtement qu'on reçoit, qu'on dit, le serviteur de Dieu, un tel est revêtu du Christ. Quand même. Donc là aussi, on s'est éloigné avec des habitudes prises pour faire joli, pour faire beau, etc., ce que je comprends très bien. On s'est un peu éloigné. Alors, on peut avoir des aubes qui sont blanches avec peut-être le bord, en bas, brodé, ça c'est pas mal. On peut avoir quelques ornements, une croix dans le dos, pas quelques ornements. Mais quand même, moi, je vais dire qu'on encourage les étudiants, les futurs prêtres, ou déjà prêtres qui sont ici, on va les encourager à porter des sticaria de couleur blanche. Bon, et ensuite, les autres vêtements qui sont portés, vous savez très bien, l'élément le plus important qui suit est l'aube, c'est ce qu'on appelle l'étole. Alors en français, elle a le même nom pour le prêtre que pour le diacre. En roumain, vous avez donc épidrachil, qui est un mot grec, épidrachilion, qui désigne donc l'étole, et orarion, qui désigne l'étole du diacre. C'est intéressant parce que dans orarion, c'est un mot d'origine latine, c'est l'étole que le diacre prend quand il dit prions le Seigneur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sert à appeler à la prière. Donc c'est pas mal. Mais en français, c'est vrai qu'on a les deux mots, on dit étole pour les deux. Et dans les deux cas, l'étole du prêtre ou l'étole du diacre signifie l'obéissance. C'est-à-dire signifie que ce que fait le prêtre, et surtout ce que fait le diacre aussi, il ne fait pas de son propre initiative, mais qu'il le fait par la puissance du Christ. C'est pour ça qu'il porte l'étole, non seulement pour la divine liturgie, mais pour confesser, pour bénir une maison, ou n'importe quoi. Le port de l'étole est un signe très très important. Ça veut dire que le prêtre n'agit jamais par lui-même. Il agit en obéissance à l'évêque et étant revêtu de la puissance du Christ. Vous voyez. Donc ça c'est important. Alors les autres éléments sont un peu moins importants. Les manchettes et la ceinture, c'est vrai que ça correspond à des raisons pratiques. La ceinture, ça permet de tenir les vêtements, d'éviter d'accrocher les choses. Et les manchettes, c'est pareil, ça évite d'accrocher avec les manches. Bon. Mais en réalité, c'est un sens symbolique. Les manchettes signifient la puissance avec laquelle on agit. On est revêtu de la puissance de Dieu pour bénir, pour consacrer ou pour appeler à la prière. Et la ceinture signifie aussi qu'on a renoncé aux passions. C'est les moines ont ça. Celui qui se saint, il se saint de Dieu, c'est-à-dire que il renonce aux passions, à la convoitise, à la domination, à la colère. Voilà, il se saint pour Dieu. Il entre dans l'obéissance aussi à Dieu. C'est très important. Les vêtements ont une signification. Et d'ailleurs, pour chacun de ces vêtements, je ne les ai pas apportés, mais on aurait pu le faire au fond. Je n'ai pas pensé. Il y a des prières qui sont dites. Que le prêtre dit ou le diacre dit pour chacun de ces vêtements et qui donne le sens. Et quand c'est l'évêque, c'est pareil, pour chaque élément du vêtement, il y a une prière qui est dite. C'est très intéressant. C'est très profond. Et il faut le dire relativement à haute voix parce que c'est un enseignement pour tous. C'est pour ça que moi, présentement, pour ce qui est de l'évêque, je serai pour que l'évêque s'habille au milieu du peuple et non pas à l'autel, au milieu du peuple, et que pendant qu'il s'habille, le diacre ou le sous-diacre disent à haute voix les prières correspondant à chaque élément et que les fidèles entendent ça. Au lieu de chanter, on écoute tous ça pour savoir le sens de ce qu'on fait. Ah bon. Voilà. Merci. Voilà, on a fini. Merci beaucoup à tous. J'espère que c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est intéressant en tout cas. Et Ça m'intéresse beaucoup, le typical, ça m'intéresse beaucoup.